par la permanence, par le fait que tout change d'instant en instant, qu'il n'y a rien de stable, d'immuable. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de support pour pouvoir poser un moi qui serait immuable. On avait différentes traditions. Je vais revenir à ce sutra du Bouddha qui met en jeu Nurada, ce moi qui rencontre des ascètes et qui lui demande si le Bouddha existera après la mort, s'il n'existera plus, si les deux ensemble, si ni l'un ni l'autre. Et il dit non. On ne peut pas le décrire comme ceci. Ces ascètes, donc, sont fâchés, le traitent d'incapable. Et Anuradha va demander au Bouddha, il se dit peut-être qu'il n'a pas bien répondu à cette question. Donc le Bouddha, maintenant, il interroge Anuradha. On voit que peut-être qu'il n'est pas totalement satisfait de cette réponse d'Anuradha. Donc il y a quelque chose qui ne joue pas, de ne pas vouloir répondre, c'est quelque chose qui ne joue pas. Donc Anuradha, le Bouddha questionne Anuradha, ils sont face à face, il le questionne. Il lui demande, il lui dit, qu'en penses-tu, Anuradha? Le corps est-il constant ou éphémère? Éphémère, vénérable. Ce qui est éphémère, est-ce satisfaisant ou insatisfaisant? C'est insatisfaisant. Est-il approprié de considérer ce qui est éphémère et insatisfaisant? Ceci est moi, ceci est à moi, c'est ce que je suis, et non vénérable. Donc là, il lui dit, ben voilà, le corps il change d'instant en instant, c'est insatisfaisant parce qu'on ne peut pas lui faire confiance parce qu'il change d'instant en instant, donc il est impermanent, il est insatisfaisant. Est-ce que c'est juste de prendre quelque chose qui est impermanent et qui est insatisfaisant comme ceci est moi ou ceci est à moi? Anuradha répond non, c'est pas judicieux. Donc le Bouddha va passer sur les différents composants de la personnalité selon la tradition bouddhique, en demandant, dans le fond, est-ce que les sensations affectives, est-ce qu'elles sont éphémères ou est-ce qu'elles sont constantes? Elles sont éphémères. Est-ce qu'elles sont satisfaisantes ou insatisfaisantes? Insatisfaisantes. Alors le Bouddha lui dit, est-ce que c'est judicieux de prendre ce qui est insatisfaisant et éphémère, comme ceci est moi, ceci est à moi, c'est ce que je suis? Et non, c'est pas judicieux. Donc il passe comme ceci à travers les composantes, est-ce que la conscience est constante ou est-ce qu'elle est éphémère? Est-ce qu'elle est satisfaisante ou insatisfaisante? Elle est insatisfaisante. Le Bouddha demande, est-ce que c'est judicieux de choisir ce qui est insatisfaisant, ce qui est éphémère, comme moi, ceci est à moi ou c'est ce que je suis? Donc, alors là, la réponse. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce dialogue? C'est que d'une certaine manière, ici, on a les trois caractéristiques. Le Bouddha en demandant, en questionnant sur la nature du corps, des sensations affectives et autres, il insiste sur le côté éphémère, impermanent, et aussi sur le côté insatisfaisant. Ce n'est pas satisfaisant parce que ça change d'instant en instant. Ce n'est pas digne de confiance. On ne peut pas s'appuyer sur un type d'expérience parce qu'il va changer. On ne peut pas s'appuyer sur une sensation agréable parce que l'instant d'après, elle a disparu. Elle est peut-être désagréable. Donc là, il lui pose bien la question, selon ces deux perspectives, ce qui est insatisfaisant, de l'ordre de la caractéristique de l'insatisfaction, de la douleur, et ce qui est éphémère, est-ce que ceci peut être considéré comme moi ou ceci est à moi? Et il répond non. Donc ici, ce que le sutra met bien en place, ce que le sutra met bien en place ici, eh bien c'est le lien qu'il y a entre ce n'est pas moi, ce n'est pas à moi, l'insatisfaction et l'aspect impermanent. Donc on ne peut pas considérer ce qui est impermanent. Donc il se base tout d'abord sur l'aspect affectif, est-ce que c'est agréable ou désagréable, c'est satisfaisant, et non, c'est pas satisfaisant. Donc c'est pas judicieux de prendre ce qui n'est pas satisfaisant comme moi, comme je, ou c'est à moi. Pour comprendre pourquoi ça peut ne pas être judicieux, mais il pose une question aussi sur ce qui est éphémère, ce qui change d'instant en instant. Est-ce que c'est possible, même judicieux, possible même de dire ceci est moi, ceci est à moi, c'est ce que je suis. Et là, on est dans cette impossibilité de prendre, quand il dit ceci est moi, ceci est à moi, ce que je suis, eh bien, il évoque bien ici un je qui serait stable, un je qui serait immuable. Est-ce que ce je stable, immuable, est-ce qu'on pourrait le définir, le trouver dans ce qui constitue la personnalité, dans ce qui constitue la personne, hein, dans tous ses aspects. Donc là, il souligne que ce n'est pas possible, et cette réflexion sur le fait que les choses changent d'instant en instant et qu'on ne puisse pas trouver des sens immuables, c'est évidemment important. C'est clair, c'est évident, et pourtant, dans l'expérience, ce n'est pas si simple que ça. Nous l'avons vu, pourquoi est-ce que ce n'est pas si simple que ça? Parce que dans notre expérience, par exemple méditative, où on est un petit peu plus calme, plus tranquille, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'en général, on ne reste pas uniquement au niveau de ces expériences qui changent d'instant en instant, mais on met tout de suite des représentations, douleur ici, image du corps, jugement, on s'attache à une émotion, c'est la tristesse. Mais quand on a transformé cette émotion dans un concept tristesse, lui devient stable. Le concept tristesse pourrait durer toute l'assise, si je suis triste, toute l'assise. Donc ce qui se passe, c'est que même dans notre méditation, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on couvre ce côté éphémère des expériences par une interprétation, par le fait de vouloir saisir, de vouloir comprendre. Alors on substitue à ces vécus éphémères, à nouveau, notre registre de connaissances, de concepts, de langage. Voilà, c'est une douleur, mon épaule, mon genou, mon dos, ma tristesse, ou même je suis triste. Voilà, je suis triste, j'ai mal. Je suis fatigué. Donc immédiatement, on remarque bien ici ce fait dont j'ai parlé ce matin, le fait de substituer une sorte de monde parallèle par rapport au monde vécu, qui est ce monde éphémère vivant, ce monde de chair, cette manière de substituer un monde abstrait, stable, tranquille, on pourrait dire silencieux, même quand ça fait mal, parce que tout d'un coup, c'est plus vivant. Si on parle de silencieux, on pourrait imaginer l'audition, si c'est l'expérience auditive, il y a quelque chose qui est assez extraordinaire avec cette richesse d'une expérience auditive, et puis voilà, tout d'un coup je dis, tiens, une voiture qui passe, mais voilà, là j'ai substitué à ce vécu qui change d'instant en instant, cette représentation, cette interprétation qui peut être juste, c'est bien une voiture qui passe, et alors à ce moment-là, donc, on pourrait dire que dans toute la durée de ce passage de la voiture, il y a quelque chose qui s'est figé. Comme j'ai dit, ça devient silencieux, je ne suis plus vraiment dans cette richesse de l'expérience auditive. Donc constamment, on va se rendre compte de cette substitution, de ce jeu de vouloir s'appuyer sur des choses immobiles, immuables, plutôt que de rester dans la richesse de l'expérience du vécu qui change d'instant en instant. Par une sorte de parti pris, parce que je crois que quand on se dispose à vraiment faire l'expérience de ce qui change d'instant en instant, quand on peut vraiment le faire, on se rend compte de la légèreté que ceci donne, de l'ouverture. Mais il semble qu'on ait tout d'abord c'est a priori de vouloir s'accrocher à quelque chose qui dure. C'est évidemment pas une décision juste consciente, non, j'aime mieux choisir le stable. Évidemment, c'est quelque chose de tellement profond en nous qu'il n'est pas si simple de traverser cette barrière des représentations pour être de plein pied dans le monde qui change d'instrument. Et c'est pourtant là ce à quoi nous invite la méditation, c'est être de plein pied dans le monde réel qui change d'instant en instant. Quitter ce monde d'abstraction. quand quelquefois on nous critique, les méditants, en pensant que voilà, on a envie dans le fond de ne pas assumer le monde, de se réfugier dans une sorte de sphère abstraite ou de joie, c'est bien connaître que c'est l'inverse. Et que plutôt une sorte de zone de confort, ça demande un certain courage, une certaine détermination, mais qui évidemment ouvre sur quelque chose d'assez étonnant. Donc ici, on a vu relier le non-soi, anatta, avec l'insatisfaction et le côté éphémère. On retrouve les trois caractéristiques qui sont mentionnées là, où la première et la deuxième, c'est-à-dire l'insatisfaction, le côté impermanent, ou sur la troisième caractéristique qui est le non-soi. Ce n'est pas judicieux de dire ceci est moi, ceci est à moi, je suis ceci. Donc il ne s'agira pas de détruire un moi dans la méditation, ça n'aurait pas de sens, mais de réaliser que ce moi-je est quelque chose d'extrêmement d'utile, mais d'extrêmement abstrait, construit. Cite Nietzsche ici, qui dit le moi n'est qu'une particule grammaticale, un fait de langage. C'est rien de fait de langage qui a son sens, qui est judicieux, mais c'est qu'un fait de langage. Si derrière ce je particule grammaticale, je crois que je vais trouver quelque chose dans mes vécus qui va correspondre, voilà, je ne sais pas dans quelle partie du corps, de la conscience, je ne sais pas, là il y a confusion. Mais si je pense que c'est la manière dont je peux m'exprimer par rapport à ces vécus, à cette expérience-là, alors à ce moment-là, évidemment, c'est judicieux. Donc le fait de réaliser que dans ce monde éphémère, il n'y a rien d'immuable, pas de moi immuable, ceci s'applique aux deux niveaux du moi. J'ai parlé du moi inné et puis du moi fiction, du moi imaginaire. Donc le fait qu'il n'y ait pas de moi immuable, ceci concerne ces deux niveaux du moi parce que les deux semblent être immuable, exister dans le temps, si on veut. Et dans les deux cas, il y a cette erreur. Donc le fait de réaliser cette impermanence, que tout change d'instant en instant, ceci va aider à se libérer des deux niveaux de la confusion au sujet du moi. Donc le moi inné, le moi le moi construit, ce matin on a posé la question, dans le fond qu'est-ce que c'est que cette différence? Je l'aborderai un tout petit peu ici, puis je l'aborderai à nouveau demain de manière plus profonde, mais ce moi inné dans le fond, c'est un moi de position qui fait que je peux dire je et tu, et ça évidemment c'est juste, il faut bien garder ceci pour fonctionner, pour communiquer, pour être avec les autres, il faut bien l'utiliser, garder ce moi de position, si on veut, de convention. Celui-ci, on va lui garder ce moi inné, on va lui garder une utilité. Il est moins limitant, enfermant que le moi construit, le moi fictionnel. Donc celui-ci, on lui garde une certaine réalité, ce moi inné. Les distinctions dans les traditions bouddhiques, mais ici on peut très bien dire qu'on lui gagne un certain degré de réalité, qu'on appellera conventionnel. Je peux dire je peux dire tu, et ça c'est nécessaire à la communication, autrement on ne s'en sort plus. Si j'essayais d'utiliser un langage qui n'utiliserait pas je et tu, mais qui essayerait quand même de dire une personne ici, une personne là, on arriverait au même, mais avec encore beaucoup plus de confusion. Donc le langage ici doit être préservé. Donc on fait quelquefois une distinction entre deux niveaux de réalité. Je crois que ça peut aider parfois ces deux niveaux de réalité, à comprendre, en fait, parle d'une réalité ultime et d'une réalité conventionnelle. Là, j'ai fait une citation d'un texte extrêmement utilisé. Voilà ce que dit ce texte. Il dit « Qu'est-ce que la vérité conventionnelle ?» C'est ce qui est désigné par le langage commun, ce qui est révélé par les mots et les symboles. C'est ce qui est révélé par le langage commun. Révélé par les mots et les symboles. Ça, c'est la vérité conventionnelle. C'est la vérité parlée, si on veut. Pour communiquer, elle a son sens. On ne peut pas nier ce niveau de réalité. Qu'est-ce que la vérité ultime, ce qui existe réellement, en fin de compte, quand on cherche vraiment, qu'est-ce qui est la vérité ultime? C'est ce qui ne peut pas être saisi par le langage. Et ça, c'est important. La vérité ultime, c'est ce qui ne peut pas être saisi par le langage, donc qui ne peut pas être saisi par le concept, qui n'est pas de l'ordre de la compréhension, parce que ça, c'est dans le langage, mais on pourrait dire qu'il y a de l'expérience intime avant le langage. Un peu la difficulté de la méditation qui essaie de nous placer dans une expérience avant le langage qui est plus intime avant d'être filtrée par le langage. Alors, quand on peut rester à ce niveau d'expérience, ne pas dire qu'il ne pas y avoir de pensée, de mots de concept, mais on ne va pas s'appuyer sur eux. Bon, ce n'est pas eux qui vont être là comme source de la réalité. On se bat contre, on ne s'appuie pas sur eux. Donc à ce moment-là, dans la méditation, il s'agit de ne pas plus s'appuyer sur ce dont on s'appuie habituellement, c'est-à-dire le langage, les représentations, pour rester dans quelque chose de plus intime avant ces représentations. Et à ce moment-là, on dépasse la notion de moi-je, on est dans cette expérience intime qui précède toute élaboration. Moi-je ou du je es-tu, c'est avant cette distinction. Donc là, vous avez tous fait de la méditation, on se rend bien compte que tout ce que nous mettons en place, c'est toujours pour aller dans ce sens, de revenir à l'expérience elle-même, de vraiment ressentir, non pas d'observer qui serait une manière de représentation, mais de vraiment ressentir, d'être dans le vécu de la manière la plus intime possible. C'est ce qu'on décrit constamment pour justement être avant que ce qu'on codifie les expériences par le langage, pour découvrir ce monde qui n'est pas ce monde parallèle des représentations, mais qui est le monde vécu, le monde réel. Selon Chandrakirti, un des plus grands philosophes du bouddhisme indien, il dit de poser les deux vérités, conventionnelles, intimes, etc., c'est essayer, depuis le niveau du langage, d'essayer de trouver un sens. Depuis le niveau du langage, on essaie de trouver un sens, donc on parle de ces deux niveaux de vérité, mais lorsqu'on est dans l'expérience ultime, sans concept, etc., à ce moment-là, on n'a plus besoin de faire cette distinction. Cette distinction apparaît au niveau du langage, des représentations, elle est utile, mais dans l'ultime, elle n'a plus lieu d'être. Donc nous avons vu là une certaine approche du non-soi qui est basée surtout sur l'impermanence, le fait que les choses changent d'instant en instant. Il n'y a rien de saisissable. Il y a une autre analyse qui d'ailleurs apparaît dans ce même sutra d'Anujada, qui n'est plus basé sur l'impermanence, mais plutôt sur l'aspect composé. Si une chose est composée de différents éléments, elle n'a pas d'existence indépendante, elle n'a pas d'existence propre, parce qu'elle est juste un nom qu'on met sur un ensemble de choses. Ce n'est pas toujours évident de comprendre pourquoi un phénomène composé n'est pas immuable et indépendant. On pourrait prendre un exemple de la France. Si on essaie de dire où est la France, ben on peut la situer un peu par rapport aux autres pays. Mais si on allait en France, on dirait, moi je vais trouver où est la France, elle est là. Non, ben, elle n'est pas là, elle est partout. Donc on se rend compte que France, c'est un mot qui est mis, dans le fond, sur un ensemble de départements. parler ici en manière administrative, ou sur un ensemble de vallées, de plaines, de rivières, etc., on a mis ce mot France, qui a un sens, on peut bien déterminer, à l'heure actuelle, mais qui évidemment a aussi fluctué. Puis une période où France n'existait pas. Il n'y a pas quelque chose tout d'un coup qui a surgi avant que France existe, pas quelque chose tout d'un coup dans l'univers qui a surgi, un atome particulier, une molécule particulière qui est la France, non. C'est simplement la convention. Les hommes se sont rassemblés, leur moi et autres, et ont décidé, voilà, ça c'est la France. C'est un déterminé des frontières, d'ailleurs, qui a certainement pas mal fluctué. J'ai déjà raconté cette histoire de cet ami israélien qui est allé avec ses deux enfants, son épouse et ses deux enfants en Thaïlande, et son petit garçon, et à chaque fois, il disait, mais papa, quand c'est, tu montes la Thaïlande, il essayait de voir où était la Thaïlande, mais évidemment, il n'a pas pu le dire, c'est ici, c'est là, parce que la Thaïlande, ben, c'était partout où ils étaient, et nulle part. Donc là, c'est pour montrer que quand on met un mot sur un ensemble, ici une région, un ensemble de départements, eh bien, il n'y a pas, c'est une manière de parler, mais il n'y a pas un rocher qui sera la France, une plage qui sera la France, une rivière là, un étang, un lac qui sera la France. Bon, c'est une convention. Tout à fait recevable, judicieux, je ne sais pas le nom, mais enfin, voilà, c'est comme ça qu'on s'exprime. Donc, lorsqu'on aborde aussi la question du moi ou du non-soi par rapport au fait d'être composé, eh bien, on se rend compte que la personnalité ou la personne, elle est composée aussi de différents éléments et qu'on est bien emprunté. Pour dire c'est cet élément-là ou celui-ci qui est moi, je suis ceci, je suis cela, mais si, voilà, un département disait c'est nous la France, et vous direz, mais enfin, t'exagères parce que c'est nous la France, entrer dans cette discussion qui n'est pas lieu d'être d'ailleurs, mais de la même manière, on ne peut pas penser qu'un des éléments serait le moi ou le je qui nous constitue, et on verra aussi le fait de vouloir mettre ce mot sur l'ensemble est aussi problématique. Donc ceci apparaît dans le sutra, dans le jada. On parle en termes des composants, qui sont les composants de corps-esprit. Dans le fond, avec l'esprit qu'on clarifie, qu'on divise en quatre différents aspects. Et c'est bien là que l'interrogation du Bouddha va porter, maintenant plus sur l'éphémère, ni l'insatisfaisant, mais sur le composé. C'est-à-dire que dans le fond, je ne peux pas être aucun élément qui me compose. C'est, n'a pas de sens. Mais on pourrait réduire cette distinction tout d'abord, plutôt que le multiple composé, simplement dans le composé corps et esprit. On pourrait dire que ce qui nous constitue, c'est le corps et l'esprit. Même si l'esprit, on pourrait voir des nuances. Mais dans cette organisation du corps et de l'esprit, on a une difficulté parce que qu'est-ce qu'on entend quand on parle du corps? On a l'impression qu'on sait très bien quand on parle du corps, mais finalement, c'est quand même assez ambigu. Parce que quand on parle du corps, en général, on parle du corps d'une autre personne, ou comme une autre personne considère notre corps. On le voit comme un objet, comme un objet d'observation, comme quelque chose de bien délimité, quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut toucher, mais notre existence corporelle, elle est différente, parce que la personne en face ne peut pas avoir notre vécu corporel, elle ne vit pas notre corps. Donc le corps vécu n'est pas le corps montré, ni le corps observé. Le corps vécu, c'est autre chose. C'est cette intimité, si dans la méditation on veut observer son corps, on se rend compte qu'on crée certaines difficultés. Il s'agit d'être ce corps d'expérience. Vous voyez, donc, ne faut pas faire cette dichotomie corps et esprit, parce que quand on fait ceci, on tombe sur le corps qu'on a chosifié, comme le corps des autres, comme le corps que les autres voient en nous, mais pas comme le corps vécu. Le corps vécu, c'est autre chose. On ne peut pas dire qu'on met des gouttes de conscience dans un corps pour que tout d'un coup il soit vécu. Non, le corps vécu, il est de manière immédiate. Dans un sutra, un moi, un Lunkhyaputta, réfléchit, se dit qu'il a des doutes, il a des questions, on comprend bien. Et il se demande, dans le fond, entre autres, il se demande si le corps et l'esprit sont identiques ou c'est des choses différentes. La question que nous nous posons ici, est-ce que le corps et l'esprit sont une chose ou est-ce que ce sont des choses séparées et différentes? Et lorsqu'il va demander, poser la question au Bouddha, le Bouddha refuse de répondre. On ne peut pas dire qu'ils sont différents, ni qu'elles sont un, parce que un, ça deviendrait aussi. Est-ce que ça serait conscience ou corps? Donc, le Bouddha refuse de faire cette distinction, corps et esprit. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Quand même une culture où on pose facilement cette dichotomie corps-esprit. Bon, on la pose facilement, on ne résout pas les problèmes ensuite de leur connexion, leur dialogue. Et on pose ceci. Et ce problème ou ce doute par rapport à cette manière de les séparer complètement, il est là aussi dans la pensée occidentale. Si on revient à Descartes, il disait l'âme est plus aisée à connaître que le corps. L'âme est plus aisée à connaître que le corps. Voilà, le corps, c'est plus difficile dans la mesure où on va se mettre dans deux positions. Une position de ce qu'on montre, une position d'observateur, là on peut peser, mesurer, etc. Mais ce n'est pas la même chose que le corps vécu, le corps que j'éprouve. Une question, évidemment, qui surgit dans notre méditation, puisque quand on regarde le Satipatthana Sutra, avec cette invitation à être présent dans tous les mouvements du corps. Vous faites tendre un bras, de tourner la tête, de position, d'être assis, debout, couché ou d'être en train de marcher. Eh bien, la méditation nous invite justement à ce corps vécu, non pas à ce corps observé. Il ne s'agit pas de s'observer marcher, s'observer être assis, s'observer tendre le bras. Ça n'amène pas du tout à cette intimité dans le rapport. Si je m'observe tendre le bras, je fais déjà une représentation de ce mouvement du bras que je tends. Et à ce moment-là, j'ai glissé dans le monde abstrait de représentation. Je ne suis plus dans ce vécu lui-même du corps qui est là en vie, sans prendre une distance, sans m'attacher à une représentation, mais ce que ce corps vécu. Dans la marche, dans les mouvements, dans chacune. Nous sommes invités à être ce corps vivant, non pas à l'observer. Comme, évidemment, comme élément essentiel du chemin méditatif. Donc là, on n'est plus dans cette dichotomie corps-esprit où il s'agirait d'observer le corps, d'observer les mouvements, d'observer les sensations corporelles. On est vraiment dans un vécu. On vient sur une citation de Sartre parce qu'il a aussi essayé de réfléchir sur son rapport corps et esprit. Ils ont aussi qu'il était riche. Voilà, j'ai pris deux citations. Il dit « C'est tout entier que l'être humain doit être corps et tout entier qu'il doit être conscience. Il ne saurait être uni à un corps. » Donc c'est tout entier, pas une partie serait ici, une partie qui sera là. Ou bien le corps est chose parmi les choses, ou bien il est ce par quoi se découvrent les choses à moi. Il est juste une chose comme les autres, ou bien il est justement ce qui me permet d'avoir accès aux choses. Donc ce qu'il décrit là dans la première citation, c'est que l'être humain, si on parle de manière générale ou de notre vécu, lorsque nous sommes totalement tout entier corps, nous sommes tout entier esprit, nous ne sommes pas un petit peu ceci, un petit peu cela, parfois ceci, parfois cela, c'est la totalité de notre être, la totalité qui s'exprime dans ce mouvement du bras, etc., quand il est vécu pleinement. Donc on a bien dans ces méditations, parce que c'est quand même le but du Satipatthana Sutra, le fait d'être parfaitement présent dans la marche, dans le fait de tendre le bras, de tourner la tête, etc. C'est quand même toujours une investigation, une manière, non pas analytique ici, mais on pourrait dire expérimentale, de réaliser cette absence de moi dans le mouvement et l'autre. Si on l'observe, ça va être difficile. On va être un moi qui observe le corps, un moi qui observe le mouvement. Ça va être difficile. Donc, dans la mesure où, dans cette pratique-là, on peut être totalement dans ce qu'on fait, identifié, totalement présent dans le mouvement, dans le fait de tourner la tête dans une position, à ce moment-là, dans la totalité de ma présence dans ceci, on va, à ce moment-là, réaliser qu'il n'y a pas de moi. Ces mouvements, ces positions seront libres. On n'a pas créé cette distance, cette observation qui va le traduire en concept, en faire quelque chose d'abstrait. Mais la tradition zen et chan, au fond, a beaucoup exploré ceci. Maître du Chan chinois, donc Lingzi, qu'est-ce qu'il disait? Quand on lui demandait c'est quoi ta pratique, il disait ben voilà, je vais chercher l'eau à la rivière, je récolte le bois pour faire le feu, je fais cuire mon riz, je le mange, et le soir venu quand je suis fatigué, je dors. Très simple. Hein? Très simple. On pourrait dire non, on en fait beaucoup trop. Hein? C'est très simple. Et finalement, évidemment, ça veut dire qu'il ne s'agit pas juste de faire de manière utilitaire. Mais d'être totalement dans ce qu'il fait, et de cette manière-là, lorsqu'il est totalement dans ce qu'il fait, il y a cette totalité, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de moi-je, il y a juste cette manière d'être, qui change d'instant en instant, d'être qui n'est pas saisi dans chaque activité. Il y a une analyse extrêmement célèbre dans la tradition bouddhique, un texte que certains d'entre vous avez peut-être lu, mais une question au roi Milinda qui oppose un roi Nagasena à un roi de l'origine grecque, Ménandre, et il y a un dialogue entre ces textes. C'est un texte extrêmement vivant, extrêmement riche, pour en faire une pièce de théâtre d'ailleurs. Voilà, si vous cherchez des sujets de pièces de théâtre, question au roi Milinda, c'est une très bonne possibilité. Donc, le roi questionne Nagasena pour savoir ce qu'est le roi. Voilà, c'est des détails, mais ils ont une rencontre assez intéressante. C'est que le roi arrive sur l'endroit de rencontre. Il lui dit, c'est toi Nagasena, ça va être au moins, c'est toi Nagasena. Et lui dit, effectivement, c'est comme ça qu'on m'appelle. Mais si on cherche vraiment, on ne trouvera pas Nagasena, mais c'est comme ça qu'on m'appelle. Bon, le roi est surpris, et puis il va questionner Nagasena. Nagasena va essayer de lui expliquer. Il va prendre un exemple, cet exemple certain, qui est l'exemple du chariot. Donc, imaginez que le roi est venu sur un char en bois. Et puis il lui demande, là, il dit, voilà, si tu es venu sur un, si vous êtes venu, votre majesté, je ne sais pas comment il s'exprime, certainement poliment, eh bien, vous êtes venu en char, le roi dit, oui, eh bien, dites-moi, c'est quoi le char? Alors il va définir chaque partie. Est-ce que le char, c'est les roues? Est-ce que c'est le moyeu? Est-ce que c'est les rayons? Parce que ça, les rayons, c'est les roues. Mais est-ce que c'est le plateau? Est-ce que c'est les bras? Et à chaque élément, le roi peut dire non, c'est pas ceci, c'est pas cela. Il dit, ben alors je cherche, moi je cherche finalement où se trouve ce chariot, je n'en trouve pas. Il n'y a rien, donc vous m'avez dit que vous êtes venu en char, mais en fait, vous mentez parce qu'il n'y a pas de char. Le roi dit, ben c'est un nom qu'on met sur cet ensemble. On appelle cet ensemble, voilà. Le chariot. Comme ça qu'on l'exprime. Mais cet ensemble-là, il se trouve nulle part. L'ensemble, il n'est pas dans une partie ou dans l'autre. Le magasin, il en va de même avec un être humain, avec moi par exemple. Eh bien, c'est un mot qu'on met sur l'ensemble. C'est une manière de parler d'un ensemble de différents éléments, mais ce n'est aucun d'entre eux, ni une sorte de totalité qui existerait séparément. On ne peut pas dire qu'il y a la revenir au chariot, il y aurait les différentes parties du chariot, et puis il y aurait le chariot à côté, ou le chariot qui posséderait les parties, sa propriétaire des parties, ou bien qui serait dans les parties, ou bien les parties seraient dans le chariot. Ça n'a pas de sens. C'est juste un mot qu'on met sur un assemblage dans un certain sens, mais il n'y a pas d'essence immuable de ceci. On a déjà vu ce problème avec le pont de Londres reconstruit en Arizona. Ici, on est dans quelque chose d'un peu différent. Donc, le questionnement se fait à partir de cette manière de décrire ce qui constitue un être humain avec un aspect corporel et différents aspects mentaux et spirituels. Pour revenir à l'exemple du char, évidemment, si on a ce chariot, on pourrait imaginer qu'on l'entre dans une grange et qu'on le démonte. Peut-être qu'une personne qui rentrerait ne dirait pas « Tiens, voilà un chariot démonté », peut-être qu'il dirait « Tiens, voilà des pièces de bois par terre, il montre ce que c'est ». Peut-être une personne pourrait venir et prendre une de ces pièces et s'en aller. On ne peut pas lui dire « Pourquoi t'emmènes le chariot ? Elle a pris une des pièces, une autre personne vient prendre une autre pièce ». Et une autre pièce. Et finalement, il ne reste plus rien. Qui a pris le chariot ? On ne peut pas dire. On peut dire que cette personne a pris le chariot. À quel moment est-ce que le chariot a disparu ? À aucun moment. On ne trouve pas l'essence du chariot. On ne peut pas dire qu'une personne l'a pris. Mais qu'à un moment donné, il est là. Et qu'à un moment donné, il n'est pas là. Donc ça, c'est un exemple extrêmement célèbre qu'on trouve dans ces questions au roi Milinda, qui sera repris abondamment par les textes du bouddhisme indien plus tardif. Voilà, moi je l'ai entendu pas mal de fois, mais je trouve qu'il y a un petit quelque chose qui me dérange dans cet exemple, il y a beaucoup de choses, mais il y a un petit quelque chose qui m'ennuie, c'est que, évidemment, ces pièces de bois qui constituent le chariot, on peut les séparer, on peut en avoir une ici, une là, dans ce qui constitue l'être humain, ou à la rigueur, délimiter le corps, effectivement, ce qu'on peut peser, ce qu'on peut toucher, etc. Mais en ce qui concerne les aspects de la conscience, l'aspect spirituel, c'est-à-dire la perception, la sensation affective, les émotions, tous ces aspects-là, on ne peut pas les prendre et les séparer, on ne peut pas avoir... Ici, la sensation affective, ici, on aurait la perception, ici, on aurait la conscience, parce que ce sont des aspects d'un même phénomène. Donc, là, je trouve que pour moi, l'exemple du chariot, tout d'un coup, voilà, il est accepté un peu trop rapidement, ou ça nous gêne. Peut-être que je ne le comprends pas très bien, parce qu'il est tellement célèbre, je sais que les hommes ils sont bien réfléchis là-dessus, mais pour moi, je trouve que. L'exemple ne joue pas parce que c'est des choses qu'on peut séparer et les quatre éléments de l'esprit, on ne peut pas les imaginer séparément. Alors, si j'imagine un exemple qui jouerait un petit peu mieux, qui ne sera pas sans problème, on pourrait imaginer un verre de bière. Alors, évidemment, la bière est aussi, elle a différents aspects. Elle a une couleur, elle a une température, elle a un goût, elle a une odeur. Donc, on ne peut pas séparer ici la couleur, séparer ici la température, séparer ici l'odeur, séparer ici le goût. Ça n'a pas de sens. Ce sont des aspects du même élément qui est ici la bière. Donc voilà, ça me semble un petit peu mieux pour moi parce qu'on ne peut pas vraiment les séparer, les mettre comme le chat. Le chat, c'est un peu différent. Donc, si on revient à Nujada, qui est allé voir donc, le Bouddha en lui disant « Est-ce que je vous réponds ?» Il a répondu « Là, le Bouddha et Nujada sont face à face. » La question est de savoir est-ce que le Bouddha existera après sa mort ou pas. Ils sont face à face et le Bouddha demande à Anuradha de lui dire qu'est-ce qu'est le Bouddha, de mettre le doigt sur ce qu'est le Bouddha. Toucher du doigt ce qu'est le Bouddha, il dit voilà, est-ce que le corps c'est le Bouddha? Anuradha lui dit non. Alors est-ce que les sensations affectives, est-ce que la perception, est-ce que les pensées, les émotions, tout ceci, est-ce que ceci est le Bouddha? Est-ce que ceci est le Bouddha? Anuradha dit non, on ne peut pas dire ça. Alors est-ce qu'on peut dire que le Bouddha, il est dépourvu de corps, de sensations affectives, de pensées, d'émotions? Non, on ne peut pas dire ceci. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'ensemble? Non, on ne peut pas dire ceci. L'ensemble, c'est juste un mot mis sur différents éléments. On ne peut pas dire que c'est l'ensemble. Alors, il dit à Anuradha, mais tu vois, tu ne peux pas trouver ce qu'est le Bouddha alors qu'il est en vie. Alors qu'il est en vie. Comment te poser la question s'il existera? Reviens à la question, la remarque que je m'ai fait ce matin. C'est que dans la mesure où il y a rien qui soit immuable, qui corresponde à ce moi et à ce je, quelque chose d'immuable qui pourrait disparaître, qui pourrait arriver à la fin, dans la mesure où il n'y a rien de ce type-là. Donc, on ne peut pas parler de la mort de ceci, puisque ceci n'est qu'une fiction, n'est qu'une fiction. Donc, on ne peut pas parler de Bouddha qui existera après sa mort ou pas, parce que dans le fond, il n'existe pas ici de manière déterminée comme étant ceci ou cela. Il n'a pas cette existence que prétend lui donner le langage, que prétend lui donner les concepts. Il n'a pas cette existence-là qui fait qu'il pourrait la perdre à un moment donné. Donc c'est une fausse question. Je me souviens, mes enseignants, quand on lui demandait... est-ce que vous croyez à la réincarnation? Et il répondait, mais pour le savoir de quoi on parle, quel est cet être dont on pourrait poser une nouvelle vie? Il faudrait d'abord savoir de quoi on parle, il faudrait d'abord déterminer son existence. Ensuite, on pourrait se poser la question. Donc, la question est plus de qui est-ce qui est là qui pourrait se poser la question de sa propre incarnation. S'il y a quelque chose de là de défini, alors à ce moment-là, on aura la réponse à la réincarnation. Mais pas dans l'abstrait, alors qu'on ne sait pas de quoi on parle. C'est exactement ce que fait le Bouddha ici. Il faut voir de quoi on parle avant de parler de l'existence du Bouddha après la mort, ou pas. Le karmapa résume ceci au sujet de chacun des agrégats. Et voilà, il dit, le corps n'est pas moi, je ne possède pas le corps, je n'existe pas dans le corps n'existe pas en moi. On peut prendre pour les sensations affectives, ce n'est pas moi, je ne possède pas les sensations affectives, je n'existe pas dans les sensations affectives n'existent pas en moi. Donc, on peut prendre chacun des éléments, ici il ne fait que citer ce qui est communément dit ou exposé dans cette investigation. Ouais, ici, vous citez un petit texte de Beckett, parce que je trouve ça assez intéressant quand on a ce questionnement. Alors voilà, je ne sais pas exactement ce que Beckett voulait dire, mais voilà ce texte que je trouve assez parlant. Un nouvel texte pour rien, voilà ce qu'il écrit. Il écrit, où irais-je si je pouvais aller? Que serais-je si je pouvais être? Que dirais-je si j'avais une voix? Qui parle aussi se disant moi? Répondez simplement, que quelqu'un réponde simplement. C'est le même inconnu que toujours, le seul pour qui j'existe, au creux de mon inexistence, de la sienne, de la nôtre. Voilà une simple réponse. Ce n'est pas en pensant qu'il me trouve. Je vous le relis pour nous, c'est quand même coïncidence, mais c'est assez intéressant comme texte, texte pour rien. Où irais-je si je pouvais aller? Que serais-je si je pouvais être? Que dirais-je si j'avais une voix qui parle ainsi, se disant moi? Répondez simplement que quelqu'un réponde simplement. C'est le même inconnu que toujours, le seul pour qui j'existe, au creux de mon inexistence, de la sienne, de la nôtre. Voilà une simple réponse. Ce n'est pas en pensant qu'il me trouve. Et c'est beaucoup plus compréhensible que ce dont j'ai parlé jusque-là. Mais enfin, ça, l'intérêt aussi d'évoquer ce moi insaisissable. Là, il y a un élément sur lequel j'ai passé, peut-être un peu rapidement, c'est que le moi n'est pas l'ensemble. Bon, elle n'est pas l'ensemble de ce qui constitue l'être humain. Parce que c'est problématique, le moi qu'on cherche, ici, c'est quelque chose d'immuable, d'indépendant, ce n'est pas juste une manière de parler. Et ce moi immuable, indépendant, qui existe comme ceci, si il est constitué par différentes parties, on de ces parties, on voit qu'il n'y a rien qui lui sera propre. Il n'y a rien qui lui est propre. Il est l'ensemble de ces choses-là. C'est une manière de parler, et ça, alors, la tradition en convient, mais on ne peut pas dire qu'il a une essence, qu'il y a un des éléments qui est le moi. Comme on pourrait, dans certaines traditions, déterminer une âme qui serait... Elle sera ici, mais enfin, une âme qui sera un peu l'essence de la personne, bien là, dans cette exploration que nous avons faite, on ne peut rien trouver dans ses constituants. C'est une manière de parler, comme on parle de la France, en mettant le mot sur différentes régions, tout au pays évidemment, mais il n'y a pas d'essence, il n'y a rien qui correspond à ceci. Donc, oui, ça peut être une manière de parler. Pour certains, c'est justement ce moi responsable, ce moi juridique, si on veut, c'est ce mot qui est mis sur l'ensemble. Pour certains, c'est juste mis sur la conscience, on a des petites nuances ici, mais ça reste toujours quelque chose qui n'est pas immuable, qui est simplement un nom mis sur différents éléments, mais qui n'a pas d'essence. Voilà, donc, on a abordé cet après-midi le côté plus composé, dans le fond. Regardez ce qui constitue la personne, et regardez que dans ce qui constitue la personne, on n'a pas trouvé une sorte d'élément très spécial qui correspond à une... Trouver la richesse de tout vécu, mais rien qui serait un élément immuable qui pourrait servir de moi. Voilà donc ce que je voulais aborder cet après-midi. Donc, on continuera évidemment demain parce qu'il y a d'autres éléments qui vont être abordés. Voilà, donc je vous propose une série de discussions, et puis ensuite, on fera peut-être une petite pause, et puis peut-être je guiderai une petite méditation pour terminer, je vous laisserai continuer cette méditation. Comment un des aspects, une des manières qu'on peut voir, ou que j'ai reçu de Yeshe Ramdan, d'aborder cette méditation. Voilà, donc je vais... répartir à nouveau en petits groupes, essayer d'oublier personne, et puis donc discuter à nouveau, ou écouter si vous avez envie de discuter. Mais je crois que ces questions-là qui sont quelquefois un peu compliquées, confuses, le fait tout d'un coup de lancer des idées, ceci, cela, mais ça ne va pas, ça permet un peu de débrouiller, et puis d'être clair, etc. Un problème, ça joue aussi, discuter de ce questionnement, donc au sujet du temps. Voilà, donc je vous